Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, le journal de la culture. Et puis notre invité, Émilie Loiseau, pour son album Hommage à Laurie. Il s'appelle Run, Run, Run. Et puis il y aura son portrait évidemment inattendu, le portrait par Hélène Manarino. Dans les indispensables, le parcours sanitaire, c'est une bonne nouvelle qui nous attend aujourd'hui, nous les spectateurs, dans les salles de cinéma. Et puis un roman terrible, le nouveau Nick Hornby. Pas facile à prononcer, Nick Hornby. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Le journal de la culture, c'est le vôtre qui démarre évidemment par l'événement culturel du jour.
Et oui Philippe, le jour tant attendu, la réouverture des cinémas avec le respect des règles sanitaires, mais quand même un changement annoncé hier par le ministre de la Culture Franck Riester. Les salles de cinéma et spectacles peuvent aller au-delà de la demi-jauge instaurée par le coronavirus. Plus de limitation à 50%, très bonne nouvelle donc. Il faudra continuer en revanche à séparer les spectateurs qui n'appartiennent pas au même groupe d'un siège. Donc vous verrez les films en famille, entre amis, entre collègues aussi. Pourquoi pas allons au cinéma, Philippe.
Bien sûr.
Le masque est à retirer une fois que l'on est assis. Alors, grand jour, le monde du cinéma n'a cessé de se mobiliser pendant le confinement. Après 3 mois de fermeture, les cinémas rouvrent donc avec une quarantaine de films à l'affiche, avec des films qui devaient sortir alors que les cinémas étaient fermés, comme L'ombre de Staline. Des nouveautés, comme le film Fille de joie, avec entre autres Sarah Forestier et Noémie. Et puis, je vous en avais parlé, des retours en salle. C'est le cas du film de Gabriel Le Bomain, De Gaulle, avec Lambert Wilson, qui, lors de sa sortie, a connu un très grand succès. La bonne épouse de Martin Provost avec Juliette Binoche et Une sirène à Paris de Mathias Malzieu avec Nicolas Duvauchel. Très bonne nouvelle. Néanmoins, c'est très compliqué pour l'industrie du cinéma. En 2019, le box-office mondial avait établi un nouveau record de recettes, 42,5 milliards de dollars. Et suite au coronavirus, il y a une chute de 70% par rapport à l'an dernier, à la même période. En 2020, cela pourra représenter au total une perte de 31 milliards de dollars avec 58% de chiffre d'affaires en moins comme impact minimal. Alors, tous au cinéma.
Et puis Mathieu Charrier, je le précise, dans quelques minutes, va nous détailler tout ça, les conditions sanitaires et également un choix de film. Ce sera demain, c'est en deux parties, Mathieu Charrier, tant l'actu cinéma est riche. Le cinéma qui va donc revivre dès aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment pour les discothèques.
Et oui, les patrons de discothèques ne sont pas autorisés à rouvrir leur établissement avant septembre, annonce de Matignon. Alors les casinos, salles de jeu, oui, les stades avec un nombre maximal de 5000 personnes à partir du 11 juillet. En revanche, discothèques, foires, expositions, ça sera après l'été. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a déclaré que le gouvernement signait l'arrêt de mort des discothèques. Les patrons du monde de la nuit s'attendaient à une date de réouverture pour l'été avec des protocoles de sécurité. Ils étaient prêts. En tout cas, tous parlent d'une concurrence déloyale avec les fêtes qui se multiplient, qu'elles soient privées ou fêtes sauvages. La profession pourrait attaquer le décret de désapparition devant le Conseil d'État. Les discothèques emploient 43 000 salariés et environ 100 000 personnes en incluant les employés des sociétés extérieures comme la sécurité. Le chiffre d'affaires est estimé à 1 milliard d'euros.
Un célèbre bus, peut-être le bus le plus célèbre du monde, qui disparaît de la circulation.
Oh, it's a mystery to me. We have agreed.
Est-ce que vous avez reconnu la
Bien
musique?
Bien sûr, c'est en anglais, donc c'est Tom Leb.
Bien sûr, je peux vous la traduire, celle du film Into the Wild, évidemment, de Sean Penn, adaptation au cinéma en 2007, d'un livre qui retrace donc la vie d'un jeune Américain en pleine nature, seul. Il est au fin fond de l'Alaska, et évidemment, il y a ce bus mythique qui n'a pas bougé depuis le tournage du film en 2007. Il est à la traversée de la rivière Teklanika, aventure donc périlleuse pour aller le voir. C'est devenu un lieu très touristique. Tout le monde se pressait pour voir le bus d'Into the Wild, sauf que les autorités ont décidé de l'enlever avec un hélicoptère. Je vous invite d'ailleurs à voir les images sur internet. Sa visite est très dangereuse. En effet, une jeune femme est décédée en essayant de rejoindre ce bus. Il y a eu 15 opérations de sauvetage depuis 2007.
Et puis on reste dans la musique, quoiqu'on était un peu dans la musique. Vous l'aviez annoncé, mais on ne connaissait pas le prix. Une guitare légendaire vendue à un prix record. Come as you are, as you were, as I want. There's a friend, there's a friend, there's
Come As You Are de Nirvana, une chanson que beaucoup d'adolescents ont dû apprendre dans leur chambre, non ?
Bien sûr.
Philippe ?
Bah, moi aussi, mais moi j'étais après.
C'est vrai.
Mon adolescence était passée depuis un petit moment quand même, quand Nirvana est arrivé.
Excusez-moi, je vous rajeunis un
petit peu. Oui, mais enfin, je les ai vus en live à nulle part ailleurs quand même.
Ah bah, très bien.
À un mètre de Kurt Cobain, avec la fameuse gratte.
Alors, la guitare utilisée par Kurt Cobain lors de l'enregistrement du célèbre concert Unplugged en 1993 a été vendue aux enchères pour 6 millions de dollars. Celui qui l'a acheté est un entrepreneur australien, Peter Friedman. Il souhaite présenter l'instrument dans plusieurs villes du monde. En l'exposant, il récolterait de l'argent pour des œuvres de charité soutenant le monde du spectacle. Alors là, j'ai besoin de vous, Philippe. Nous avons besoin de vous. Le modèle de la guitare de Kurt Cobain est un modèle très rare, fabriqué en 302 exemplaires seulement. Guitare semi-acoustique des 18E.
Voilà, ben, je suis d'accord, vous avez raison.
Voilà, oh, d'accord. La guitare, rien à rajouter. La guitare était vendue avec son étui, personnalisé par le chanteur, et il y avait aussi 3 tickets de consigne à bagages. Jusqu'ici, la guitare la plus chère de l'histoire était celle utilisée par le groupe Pink Floyd. Elle avait été vendue pour près de 4 millions de dollars.
Et on termine par un nouveau titre de Beyoncé.
Il s'intitule Black Parade, titre surprise, disponible sur toutes les plateformes. Un morceau qui fait écho à l'actualité aux États-Unis, aux manifestations contre le racisme et les violences policières suite à la disparition de George Floyd. Le titre a été dévoilé quelques heures après que Beyoncé ait annoncé le lancement de l'initiative Black Parade Route qui doit permettre de soutenir les commerçants noirs.
Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Émilie Loiseau.
Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Auteur, compositeur, surtout chanteuse, L'autre bout du monde, Sister, 2 albums remarqués, Prix Constantin en 2009. Et là, vous sortez un nouvel album d'un genre un peu particulier. Je ne dis pas ça parce que je suis en train de montrer le vinyle, mais parce que c'est un album dont le titre est Run, Run, Run. C'est un hommage à Lou Reed. Double question, quelle est la genèse de cet album et pour qui ne le connaît pas, qui était Lou Reed? Et donc, troisième question, pourquoi cet hommage?
Alors, c'est un...
Vous avez 30 secondes.
Ouais, j'ai 30 secondes, ok. C'est un disque live, déjà, ouais. En particulier. C'est une captation live de ce spectacle, Run, 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 qu'on a créé et tourné pendant... Qu'on a tourné, créé il y a 3 ans, et donc tourné pendant ces 3 années. Il est particulier aussi dans sa genèse, puisque suite à sa disparition, le Marathon des mots à Toulouse m'avait demandé de faire une lecture musicale. J'ai convié donc mon amie comédienne Julianne Roth et mon guitariste chouchou Chava Palotaï, avec qui je joue depuis 10 ans maintenant, pour faire ça. Et puis ça s'est fait en 3-4 jours, parce que c'était vraiment un truc éphémère, et on a eu envie, suite à cette plongée qui nous a complètement attrapés, quoi, d'aller plus loin dans cette lecture musicale, d'en faire un spectacle, un peu plus en 3D, avec des images, avec des projections vidéo, lumière, et de rentrer dans un spectacle immersif où on serait au cœur du plateau avec les enceintes autour du public, autour de nous. Et c'est devenu cet album parce que suite à cette tournée, on a eu envie de pouvoir laisser une trace de cette aventure.
Alors tout à l'heure, on va écouter en entier Walk on the Wild Side, mais là, je voudrais qu'on entende quelques mesures de Sunday Morning.
Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side.
Alors, je veux savoir comment vous avez travaillé tous les trois. J'imagine le guitariste, il joue avec vous, mais la comédienne qui lit les textes, c'est des traductions de Lou Reed, vous les avez improvisées, comment ça s'est passé?
Alors, le Marathon des mots voulait mettre en avant un livre, l'intégrale de l'œuvre de Lou Reed en bilingue, en édition bilingue, édité au Seuil par Bernard Comment, avec des sublimes traductions de Sophie Couronne. Et du coup, on est parti de ça. Il y avait les paroles de La Nuit Sauvage avant, qui avait fait une édition bilingue dont on aimait moins les traductions. Par contre, il y a des petits commentaires de Lou Reed en bas de page qui étaient truculents et hyper chouettes. Donc on s'est servi de toute cette matière pour choisir une espèce de fil conducteur selon les chansons que moi j'avais choisies, et de savoir de quoi on voulait parler, de quel Lou Reed on voulait parler, du Velvet, de Lou Reed d'après, de son engagement aussi dans ce qu'il écrit, tout un tas de choses. Et du coup, elle a choisi les textes en fonction de ça. Il y a des extraits d'interviews et de l'édition de Please Kill Me.
On va l'entendre justement, c'est Lou Reed qui parle du Velvet Underground. C'était un groupe qui avait été fondé autour de je trouve plus son nom, Andy Warhol. Il y avait aussi Nico et John Cale. On écoute, c'est Julianne Roth qui raconte, mais c'est le texte de Lou Reed.
1h45 de spectacle sans un mot au spectateur. pas merci, pas content que vous soyez là, ni on va vraiment s'amuser ce soir. On se contentait de se pointer, se piquer, soulever des poids, leur braquer des projecteurs clignotants au visage, leur faire claquer des fouets géants au visage, simuler plus ou moins des actes sexuels sur scène, avec les films d'Andy qui faisaient des bruits stridents en fond, et les Velvets qui jouaient dos au public.
Pourquoi ça vous fascine à ce point, des gens qui n'ont rien à foutre, pardon de ce terme, du public et qui jouent dos au public?
On ne parle pas que de ça dans ce spectacle.
Enfin, non, mais
on,
pourquoi pas que ça, cette... ça fascine autant?
En fait, il y a ce geste d'ultime insolence, quoi, et de colère.
Ouais.
Et je ne sais pas si ce geste-là est celui qui me fascine le plus, en vrai. C'est plus la poésie incroyable, c'est ça qui m'a sauté au visage en faisant ce travail sur Lou Reed. Curieusement, cette espèce de douceur, de tendresse, à fleur de peau. Ouais. Et c'est pas la première image qu'on a de Lou Reed, et c'est aussi... cette poésie dingue, quoi, et son amour de la littérature. Ensuite, on a effectivement, on s'est servi de ce texte-là pour simuler un peu cette chose-là à notre manière, parce qu'il ne s'agissait pas d'essayer de faire comme si on était de la factory, quoi.
Vous étiez en cercle.
On est en cercle, avec donc le son aux quatre coins de la salle. On est à même le sol avec les gens autour de nous. Et donc, on se regarde, nous, et on ne regarde pas les gens.
Vous restez avec nous, on va vous regarder europe1.fr.
Émilie Loiseau est notre invitée. Dans un instant, on va découvrir son portrait inattendu, dressé comme chaque jour par notre Hélène Manarino sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Émilie Loiseau, vous connaissiez Hélène Manarino?
Non.
Vous savez ce qui vous attend?
Non.
Moi non. Moi
bah
non
tant
plus.
Mieux.
Oh non.
Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. De culture, française, anglaise, Émilie, EMI aussi. Quelques mots anglais se glisseront donc dans le portrait pour le plus grand bonheur de mon accent.
Merci.
Alors Émilie, je vous propose ce matin de partir en road trip, celui de votre vie. Avant de partir, assurons-nous que vous avez bien pris votre café de barista. Attention, il faut 9 grammes de café par tasse. Et l'extraction doit être à 9 bars.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. On est des geeks de café. Mais
c'est pas vrai.
Oui. Et j'avoue.
Après cela, votre journée donc, peut donc commencer. Et on va commencer cette balade en chanson. Yellow Submarine, un titre que vous chantiez tout le temps, petite, en alternance avec Guy Béard, Barbara, Moustaki, Ferret. Déjà, les deux cultures étaient très présentes, mais c'est une chanson anglaise que votre maman a retenue comme berceuse.
C'est quoi ?
The Boat Ashore.
Ah oui.
Une enfance.
Oui.
La berceuse de votre mère.
Oui. C'est la manière dont il le chante est très 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 différente et du coup j'ai eu du mal.
Oui. Votre maman qui vous l'a chanté.
C'est ça.
Une enfance entourée de livres, de jeux comme la Marelle, les billes, de musique, de piano avec ce grand piano à queue dans le salon dès l'âge de 6 ans avec Pierrette. Lycée avec horaire aménagé pour justement continuer à faire de la musique. Je ne sais pas. Très proche de vos parents, des parents engagés avec qui vous appreniez les chants révolutionnaires, l'international par exemple, ou encore la marche de Martin Luther King, I have a dream. Et vous en aviez, vous, des dreams, rêveuses. Votre joie et votre voix s'exprimaient surtout à bord de votre Renault 12, rempli de valises pour rejoindre votre maison au bord de mer à l'Île-Dieu, pour les courses dans les dunes, les parties de cache-cache dans les forêts de pins, le vélo, la baignade. Et en partant, vous passiez devant la maison de votre voisin en chantant systématiquement cette chanson de Georges Brassens.
La gorille.
Pourquoi c'était un gorille? C'était un gros poilu, le voisin?
Non, parce qu'il était juge.
Ah là, je sais du coup à qui vous avez parlé. Ça y est, j'ai compris. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, effectivement.
Plusieurs personnes. Alors, ça vous amusait beaucoup. Mais Émilie Loiseau, dans votre vie, il y a eu une autre Émilie. Émilie Jolie, évidemment. Mmh. Particulièrement cette chanson.
Oh, qu'est-ce qui pique ce rire sans moi? Oh, quelle est triste sa chanson.
La chanson du hérisson que vous connaissiez par cœur, vous avez même envisagé de faire l'école des fans. Alors, le oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Vous voulez faire.
Ah mais je rêvais de ça. Ouais. Je rêvais de ça. Puis quand j'ai commencé à faire du piano, c'est pareil. Mais ce n'est jamais arrivé.
Pourquoi c'est jamais arrivé? Vos parents voulaient
pas. Mes parents, c'était pas trop leur tour. Ils regardaient avec moi, mais je crois qu'ils n'ont jamais fait la démarche jusqu'au bout. Ils n'étaient pas trop mon enfant. Je voudrais te voir à la télé, quoi. C'était pas trop le délire.
Le goût du spectacle, en tout cas, vous l'avez toujours eu en vous, avec une passion pour les chapeaux. Vous faisiez régulièrement des spectacles, des comédies musicales, et vous vous sentiez souvent dans la peau d'une rôle de dame.
Le son.
Vous vouliez être Kelly, ouais, comme tout le monde. Il fallait vous imposer.
Ah non, moi je voulais pas. Moi je voulais pas Kelly, non.
Mais drôle de dame, vous l'êtes, notamment lorsque vous racontez l'histoire de la grenouille à grande bouche.
Non.
C'est
une de vos blagues préférées.
C'est quoi la grenouille à grande bouche?
Je ne vais pas raconter ça à l'antenne. C'est ouais, très 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 long. C'est très,
alors,
très, très,
non, très alors, long. Alors on ne peut pas.
Alors, mais cette blague de la grenouille à grande bouche se termine par donc « Et toi tu manges quoi ?» Et on y vient. Émilie, toi tu manges quoi? Marmite, je ne sais pas si je le dis bien, du viandox que vous aimez tartiner comme du beurre, du jus de cassis. Alors du digestif, j'ai pas d'accent anglais, c'est pas
digestive
possible.
Biscuits.
Voilà, merci. Ils sont là, les mots anglais.
C'est un biscuit au beurre anglais. Et délicieux.
Alors gourmande, certes, avec une passion pour les tomates actuellement que vous plantez partout, vous vous mettez à la permaculture. Côté boisson, un rituel que vous n'abandonnez jamais, la gorgée de whisky avant de monter sur scène. C'est pour la voix, c'est normal.
Vous avez parlé à plein de monde en fait. Hein.
Et de la voix, vous avez dû en donner notamment lors d'un concert au Printemps de Bourges pour l'un de vos premiers albums en 2006. Pendant vos balances, le courant a sauté, il n'est jamais revenu. Vous avez donc décidé de faire un concert en acoustique, sans micro, avec juste deux projecteurs.
C'est génial.
Convaincante, vous avez eu parfois oui, une force de persuasion incroyable et vous avez beaucoup de chance quand même, Émilie Loiseau, comme ce jour où vous êtes rentrée tard de boîte de nuit, adolescente, à 7h du matin, sauf que vous êtes rentrée avec des croissants. L'excuse était toute trouvée. Je ne suis pas sortie, je me suis levée tôt pour aller à la boulangerie et ça marchait.
C'est
bravo.
Génial.
Toujours.
Aujourd'hui, vous êtes mère de famille de deux enfants à qui vous avez toujours refusé le jeu du Monopoly. Vous ne supportez pas. En revanche, vous êtes une adepte du jeu des 7 familles. Alors évidemment, Émilie Loiseau, tout le monde vous a vu artiste, chanteuse, musicienne dès votre plus jeune âge et vous avez tout compris lors de la disparition de votre papa. Un de ses amis italiens vous a offert un accordéon et lorsque vous l'avez eu dans les mains, c'était l'évidence. Vous avez décidé de mettre en musique les poèmes de votre père, donner un second souffle à tout ce qu'il avait écrit, puis les interpréter dans un bar à Lille-Dieu, face à vous, à 10 personnes. Mais quelque chose se passait, la naissance d'une artiste qui dépasse aujourd'hui les frontières.
Merci beaucoup Hélène, réaction.
Merci, moi je suis hyper émue, très touchée.
C'est
merci
ça la genèse.
Bah oui, ouais, c'est vrai que c'est ça.
Voilà.
C'est vrai que c'est ça.
Et puis la blague de la grenouille, bon, une autre fois.
Une autre fois.
On va la mettre
elle
sur
est
le
très
site.
Drôle. Et je la fais très très bien. C'est vrai.
Vrai.
C'est mon hit, c'est mon hit.
Elle est tout public?
Ah oui, elle est absolument tout public.
Ouais. On va la mettre sur internet.
Dans un instant, on découvrira nos indispensables du jour au programme, la réouverture des cinémas et un livre sur le mariage en 10 actes. On en parlera avec notre invitée Émilie Loiseau dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est Émilie Loiseau qui est notre invitée. Avec elle, on découvre nos indispensables. On va parler de la réouverture des cinémas avec Mathieu Charrier, Philippe.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Mais avant cela, je vais raconter ce qui s'est passé pendant la pause. Mathieu Charrier est entré dans le studio. Il a dit, avant même de dire bonjour à quiconque, il a dit, moi je la connais l'histoire de la grenouille à grande bouche.
Bien sûr. C'est vrai. Hein, mais elle est géniale, elle marche tous les enfants. Mon papa me l'a raconté tout le temps. Mais on ne peut pas vous la faire, ça prend
d'accord
plusieurs minutes.
Mais pourquoi mais... elle est si bien? Parce que j'ai trop
parce
envie de savoir.
Parce qu'elle est toute mignonne.
Elle est toute
et
mignonne,
elle est très
temps,
visuelle.
Elle est
absurde,
voilà.
Oh le teasing.
Voilà, mais oui, mais teasing.
Et au plus elle est longue, au plus elle marche. Quoi.
C'est vrai.
Ouais, si elle est trop courte, ça marche pas.
No comment. Les salles de cinéma qui ont rouvert depuis ce matin, Mathieu Charrier, vous allez nous conseiller demain des films à aller voir en salle. Mais d'abord, ce matin, vous allez nous dire quelles mesures sanitaires attendent les spectateurs.
Oui, pour ça, on prend la direction du cinéma CGR de Nanterre Cœur Université. Alors déjà, lorsque s'ouvre la double porte vitrée, vous savez qui marque l'entrée du cinéma, vous tombez sur Bob l'éponge, figurez-vous.
Ah bon ?
Alors pas en chair et en éponge, si je puis dire, mais un présentoir Bob l'éponge avec posé sur sa tête un flacon de gel hydroalcoolique. On tenait tous ça désormais. Guillaume Ligneron est le directeur du cinéma.
Pour que ce soit un petit peu moins anxiogène en fait pour les enfants, donc on a personnalisé, on va dire, les distributeurs de gel hydroalcoolique ainsi que les ronds en fait de distanciation sociale et aussi les limites qui sont au sol pour la distance avec Bob l'éponge qui est sur du coup tous ces éléments.
Ouais, effectivement, tout au long du parcours, vous allez voir Bob hein, sur les stickers au sol pour que vous savez que vous gardiez bien 1 ou 2 mètres de distance entre chacun. Ensuite, en fait, l'idée globale, c'est qu'il y ait le moins de contact possible entre les spectateurs, mais aussi avec le personnel. Donc, CGR, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils proposent des places à 5€ pour tout le monde, pour toutes les séances, ce qui n'est pas cher, hein, 5€, si vous les achetez en ligne, avec votre smartphone ou sur le site internet. Comme ça, quand vous arrivez, vous avez juste à présenter vos smartphones ou éventuellement, si vous l'avez imprimé, à l'échanger contre un billet. Et ça évite évidemment le contact avec l'éventuel caissier ou caissière, etc. Ensuite, pour la confiserie, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est ouvert. Vous pouvez acheter des pop-corns, etc. Mais dans l'idéal aussi, on vous demande de les prendre en avance, de les pré-réserver en ligne.
On va favoriser le zéro contact. On arrive du début à la fin, on peut aller voir son film, récupérer ses places et aussi la confiserie sans avoir aucun contact avec personne pour justement garder cette distanciation sociale et être en sécurité.
Mais quand même, pour rentrer dans la salle, Mathieu, pour pas qu'il y ait de risque hier, il y a bien un agent qui contrôle votre ticket.
Eh bien non, là encore, c'est une borne automatique. Vous savez, les portiques, un peu comme dans le métro, sur lequel il suffit de biper votre ticket.
On a juste à présenter son billet en dessous, le petit scanner, et du coup, ça ouvre totalement la porte. Il n'y a aucun contact avec une souche, avec le contrôleur. C'est vraiment du zéro contact. On va faire l'exemple ensemble, du coup. Allez-y, je vous laisse passer, du coup. De A à Z, en fait, on n'a pas du tout touché que ce soit un billet, quelque chose. On a juste à présenter son téléphone sous le scanner, et après, c'est bon.
Et ça y est, on est donc à l'entrée de la salle cette fois, on voit ce grand écran qui se dresse devant nous. Les portes restent ouvertes, vous savez, comme maintenant dans les entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont bloquées. Là encore, pour éviter qu'on mette nos sales pattes sur les poignets. Et la suite.
À l'entrée, les portes sont déjà ouvertes. Donc là, on va rappeler à l'écran les bons gestes à avoir, que ce soit avant ou après le film. Et on va inciter les gens, donc même obligatoirement, ils vont sortir par les issues de secours. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment une entrée et une sortie qui soient bien distinctes pour limiter ce sens de circulation et qu'il soit uniquement dans un seul sens, avec une entrée et une sortie bien distinctes. Qu'on arrive en famille, on a le droit de se mettre à côté, mais dès lors qu'on est avec d'autres personnes, il faut qu'il y ait le respect d'un siège d'écart de part et d'autre, pour vraiment respecter cette distanciation sociale. Mais on a le droit, quand on arrive en famille ou entre amis, d'être ensemble.
Voilà, et ça, vous savez, Franck Riester l'a annoncé hier aussi sur l'antenne d'Europe 1,
oui.
C'est plus limité à 50% de la jauge. C'est-à-dire que si vous y a plusieurs gros groupes, on pourra monter à 60-70%. Il faut juste laisser ce siège entre vous et les autres groupes. Ce seront les agents qui sont chargés, justement, je vous disais, les portes restent ouvertes. Évidemment, au moment du début du film, il y a des agents qui vont venir les fermer et qui vont jeter un coup d'œil dans la salle aussi pour être sûr que les gens respectent bien. Après, on compte aussi sur le bon sens des spectateurs. Et puis entre chaque séance, il y aura une petite demi-heure. D'habitude, c'est plutôt un quart d'heure. Là, ce sera une petite demi-heure pour là encore ouvrir toutes les portes et laisser le temps à la salle de s'aérer. Donc en principe, tout devrait bien se passer.
Alors Mathieu, vous avez testé ce parcours. Est-ce que c'est contraignant? Et d'abord, comment ça se passe au niveau du masque?
Franchement, le masque, vous avez juste... On vous conseille de le mettre dans le hall. C'est-à-dire comme quand vous allez dans les... Mais ce n'est pas obligatoire, mais on vous conseille de le mettre dans le hall. Dans la salle, tout le monde pourra lever son masque une fois qu'on sera bien installé. Contraignant, non. C'est-à-dire que le gel hydroalcoolique, quand vous rentrez dans un magasin, vous avez pris l'habitude quand vous allez faire vos courses ou quand vous allez dans les boutiques, aujourd'hui c'est le cas. Ensuite, bon, on va suivre un sens unique, c'est pas très sorcier. Un masque que vous enlevez pour regarder le film, c'est pas très embêtant. Je dirais même que c'est presque mieux que d'habitude puisque vous êtes avec vos proches dans la salle et vous avez un siège de libre autour de vous. Donc
c'est vrai.
Parfois on est un peu serré, là au moins on a de la place. Donc vraiment, c'est pas contraignant du tout. Alors, est-ce que ça va marcher? Au vu des premiers tweets et des premières images qu'on voit ce matin sur les réseaux sociaux, il semble que les gens commence à retourner dans les salles, et tant mieux. En tout cas, Adeline Jambou, qui est la directrice adjointe de ce CGR, est très optimiste.
On ne sait pas si les clients seront tous présents, mais on est assez confiant. Sur les réseaux sociaux, beaucoup nous disent qu'ils souhaitent la réouverture des cinémas. Du coup, avec les restaurants qui ont réouvert à côté, etc., certains passent devant le cinéma pour savoir quand est-ce qu'on rouvre. On a déjà pas mal de réservations pour la première semaine d'exploitation, donc on est assez content. Les gens ont envie et c'est chouette.
Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura des films à voir dans ces salles? Et ça, on en parle
demain.
Quel teasing.
Avec vous, Mathieu Charrier, quel teaser. Vous allez beaucoup au cinéma, Émilie Loiseau, vous êtes cinéphile?
J'adore le cinéma, j'y allais beaucoup depuis que j'ai des enfants, ils ne sont pas encore hyper grands, c'est plus compliqué. Parce que déjà, quand je suis en concert, en tournée, on les fait garder, donc, puisque je tourne avec mon chéri. Mm-hmm. Et quand on rentre, on a un peu du mal à les faire garder. Enfin, donc on se retrouve dans un petit étau, là, qu'il faut qu'on arrive à... Surtout que j'habite à côté de fabuleux cinéma d'art et d'essai, le Méliès à Montreuil, qui est un cinéma public, donc à 4€ ou 5€ la place, toujours. Voilà, donc
mais un cinéma d'arrêt d'essai, c'est quoi? C'est on passe que des Bergman en
noir
et blanc?
Non, d'ailleurs, c'est pas un cinéma d'arrêt d'essai. Je sais pas si on peut appeler ça un cinéma d'arrêt d'essai. En tout cas, c'est un cinéma public avec les places pas chères du tout et qui passe tout un tas de films indépendants en plus de... Voilà. Ils font une sélection, il y a un vrai choix de programmation.
Ouais. C'est indépendant, Bob l'éponge?
Je sais pas.
Je dis ça pour les enfants.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Émilie Loiseau est notre invitée. On va revenir à son nouvel album dans un instant. Mais avant, on parle livre avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
Et je suis très heureux aujourd'hui parce que vous allez nous donner des nouvelles d'un écrivain dont je pensais à tort qu'il avait disparu des radars, ce que j'avais adoré, Haute Fidélité. C'est le britannique, l'anglais Nick Hornby.
Oui, alors vous l'adorez, je sais, mais comme ça, le nom ne parle pas forcément à tout le monde, sauf si je vous dis qu'il a écrit Haute Fidélité, énorme succès, et aussi About a Boy, qui a été adapté en film avec Hugh Grant.
Vous connaissiez ?
Non, je ne connaissais pas. Ben non, je me sens hyper...
C'est les gens qui ne parlent pas anglais.
C'est l'histoire d'un trentenaire rentier qui voit sa petite vie oisive et tranquille chamboulée par l'irruption d'un gamin de 12 ans. Ça va être un beau succès aussi au cinéma.
Et là, il revient donc avec
Un mariage en 10 actes. Petit format, livre court et compact, comme les dialogues vifs et punchy. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pratiquement que des dialogues. Au début, nous sommes dans un pub. On rencontre Tom et Louise, la quarantaine. Ils sont mariés, 2 enfants. Mais voilà, ils se retrouvent là pour patienter avant de se rendre tous les deux en face chez une psy, spécialiste des thérapies de couple.
En général, quand on y va, c'est que ça va très mal.
C'est le cas. Il se trouve que Louise a dérapé. C'était un flirt un peu poussé, ça n'a pas duré, mais voilà. Alors on sait bien que dans ces cas-là, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, il n'y a pas le coupable et l'innocent. Et donc, il commence à discuter de ça, et pourquoi Louise en est arrivée là, et pourquoi Tom n'a rien vu venir, etc.
Et en fait, donc, il commence la thérapie avant d'être chez le thérapeute.
Et exactement. Et puis surtout, quand il s'agit de sonner à la porte, ils sont devant, Tom part en courant. Deuxième acte, on est toujours au pub pour le deuxième rendez-vous et en fait, il n'entre jamais chez la psy, enfin pas avec nous. Nous, on assiste au brief et au débrief des rendez-vous quand ils discutent dans le pub et c'est ça ce qui fait la force et l'originalité de ce roman. C'est tout en suggestion. Raphaël Libart est l'éditrice du livre.
Pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt du livre. Et puis, il est extrêmement doué. Et là, c'est là on voit aussi sa casquette de scénariste. Il est extrêmement doué dans les dialogues. Donc, il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas ça fuse dans tous les sens. Ça fonctionne extrêmement bien. Puis le fait que ce soit presque comme des scénettes, je trouve que ça renforce le côté vraiment à l'os de chaque chapitre et la puissance des échanges entre Louise et Tom.
Mais ils ne discutent que d'eux.
Le micro s'ouvre plus. Ouais. Par eux, ils parlent aussi du reste. D'abord, ils ont vu sur la porte du cabinet. Donc, ils observent et ils commentent aussi les entrées et les sorties des autres couples. Ouais. Et puis, ils parlent indirectement du monde comme il va et de l'Angleterre. Par exemple, au fil de la conversation, évidemment, le Brexit s'invite.
Ce qu'ils montrent, c'est que le Brexit, OK, c'est un grand sujet politique, national, européen. Mais finalement, c'est un sujet qui va même jusqu'à diviser peut-être le peuple britannique, mais va jusqu'à même diviser les familles. Au sein des familles élargies, mais également au sein du couple, puisque Louise découvre lors d'un de ses moments au pub qu'en fait, il a voté pour le Brexit, parce qu'elle ne savait pas que son propre mari avait voté pour le Brexit, alors qu'elle est totalement anti-Brexit, pro-européenne, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui doit être assez fréquent dans beaucoup de familles anglaises.
Et alors, ça se termine comment? À la fin, ils se réconcilient?
Ah bah alors ça, vous lirez pour savoir. Ou voir d'ailleurs, puisque le livre est adapté en mini-série maintenant par Stephen Frears.
Président Stephen Frears, excusez du peu.
Ça doit bien marcher, je pense.
Un mariage en 10 actes, donc chez Stock. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Vous êtes grande lectrice.
J'aime bien lire, ouais. Je voilà. lis de, voilà, le plus possible.
Vous lisez quoi en ce moment?
Alors, en ce moment, je lis...
Vous êtes comment? On ne sait jamais ce qu'on lit.
Si c'est un gros livre, j'oublie toujours le titre.
La Bible.
C'est ça, la Bible, le Nouveau Testament.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais j'ai un gros trou de mémoire là.
Et vous êtes fan de séries? Parce que vous dites, je ne sors pas, je ne vais pas au cinéma. Mais
en fait, le problème des séries, c'est que justement, ça peut empêcher de lire. Je suis un peu addict. C'est-à-dire que quand je rentre dans une série, j'ai un rapport compulsif.
Et donc, vos enfants
Mes enfants, ils ont droit à très très peu d'écran, le moins possible. Et de temps en temps, des séries des années plutôt 80, genre Tom Sawyer, ce truc-là, ou des films qu'on choisit.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai lu que vos parents vous interdisaient de regarder Dallas.
C'est vrai. Ça se regardait un peu en famille, curieusement, ouais. Avec un père qui était hyper engagé, etc., anarchiste, etc. Mais de temps en temps, regardait Dallas.
Ça, c'est votre père, hein, anarchiste. C'est pas dans Dallas, je précise.
Oui, voilà. Et il passait toujours. Et quand John Ross arrivait à l'écran, le fils, il disait mais il a toujours pas grandi. Enfin, ça avait des grosses rigolades en famille. Mais quand c'était trop tard, qu'il y avait école le lendemain ou quoi, mes parents n'étaient pas d'accord et je tapais des crises. Ouais.
D'accord. Mais c'était pas une interdiction idéologique.
Non, parce qu'on l'a regardé en famille, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Ils ont contribué à cette espèce d'obsession. Je voulais regarder Dallas à la fin de la semaine.
Voilà, vos enfants vous écoutent et ils veulent regarder maintenant Dallas. Vous
évidemment,
restez avec nous,
le titre du livre va me revenir dès qu'on aura
évidemment,
fini.
Évidemment, on le dira. Merci beaucoup, Nicolas Carreau.
Merci.
La dernière partie de Culture Média avec notre invité Émilie Loiseau, c'est dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Culture Média, suite et fin avec notre invité Émilie Loiseau pour parler de son nouvel album Run, Run, Run.
Et qui existe également, puisque je l'ai ici à la main, vous pouvez le voir sur Europe1.fr, qui existe en version vinyle. C'est un hommage à Lou Reed. Vous l'aviez rencontré, Lou Reed ?
Non.
Il était venu jouer au 104, non ? Où vous jouez,
mais
où
oui,
vous êtes à résidence ?
Mais en fait, c'est extraordinaire parce que pendant qu'on travaillait, on ne savait pas ça. Et on a pris conscience de ça. On a créé ce spectacle au 104. Du coup, ouais, j'étais artiste associée là-bas. Et au moment où on s'est penché sur mais où est-ce qu'il a fait ce dernier événement où il lisait seulement ses textes, il voulait pas les jouer, il voulait seulement qu'on entende ses mots, il voulait qu'on se rende compte de la force de sa poésie. Et ben on s'est rendu compte que c'était au 104. Et on a voulu prendre un petit moment de cette interview qu'il avait fait pour la fin du spectacle. Je vais pas tout dévoiler, mais sa voix arrive à un moment. Et on s'est rendu compte, c'est le dernier moment où on laisse les gens avec Lou Reed et on s'en va. Et j'ouvre la porte et je sors. Et dans l'enregistrement de la voix, il y a une porte du 104 qui s'ouvre, mais au moment où on sort. Et c'était complètement... On est resté atterré quand on s'est rendu compte de ça. Donc c'est notre petit... Voilà, il est là avec nous.
Le 104, le 104, c'est une salle parisienne.
C'est une salle parisienne.
Et j'en parle parce que vous serez à la rentrée en concert le 10 et 11 septembre. Ce sera avec quel spectacle ?
Avec Run, Run, Run.
D'accord.
Pour célébrer la sortie du CD, du vinyle et tout ça, mais du CD qui sort, lui, en septembre.
Alors, ce que j'ai appris, c'est que Lou Reed avait une face noire. Je l'ai appris en préparant cet entretien. C'était pas un enfant de cœur. En 2015, était sortie une biographie qui avait fait scandale. The Life of Lou Reed, vous l'avez lu ou pas ?
Non.
Qui dévoilait, je cite, ses problèmes mentaux, sa bisexualité, ses trois mariages, ses additions à la drogue et à l'alcool. Attendez, j'ai pas fini. Mais également son comportement violent envers les femmes, ses propos antisémites sur Bob Dylan ou encore ses réflexions racistes sur Donna Summer.
Ah, ça, je savais pas.
C'est quand même assez dingue. Alors, il y a peut-être eu scandale parce que peut-être que le trait.
J'arrive pas à croire ça, en fait. J'arrive pas à croire ça. Il y a quelque chose de tellement brillant, intelligent et à fleur de peau, dans sa sensibilité, que je n'arrive pas à croire ça. Mais je dois me tromper.
Je voudrais qu'on entende quelques mesures du titre Run, 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 qui donne justement son titre à l'album. Ah non, bon, on ne l'a pas. Bah écoutez, c'est pas... J'allais vous demander pourquoi le choix de ce titre, mais ce n'est pas grave. La chanson Sister, c'était pour votre sœur Manon Loiseau, grand reporter après Albert Londres. Mm. Vous avez dit que votre premier album en 2001 avait coïncidé avec la disparition de votre papa. L'album Mona, c'était une sorte d'hommage à votre maman. Mm. Est-ce que Lou Reed fait partie de la famille ?
Bah maintenant, oui. J'ai tellement voyagé avec ces chansons et j'avais l'impression de rentrer dedans comme dans du velours sans vouloir faire un mauvais jeu de mots.
Ouais.
Et je suis à chaque fois que je joue ce spectacle, il y a une émotion très, très, très forte. J'ai la gorge serrée parce que les mots sont très forts. Il y a quelque chose qui me bouleverse. Et donc, oui, il fait un parti de mon intime en tout cas. Ouais.
Ça y est, Run, 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 on l'a. La voix grave, c'est qui ?
C'est Chaba Palotai à la guitare.
Et le son de gratte, c'est le son de guitare de Lou Reed quand même.
Mais c'est le son de Chaba Palotai.
Ouais, mais c'est aussi le sien. Pourquoi le choix de ce titre ? Qu'est-ce que ça raconte, Run, Run, Run ? Qui court et pourquoi ?
C'est une course. Pour moi, c'est une quête de. Et je sens ça dans toutes les chansons de Lou Reed, du Velvet à après. Une fuite, enfin un effort d'ascension, essayer d'échapper à quelque chose, d'échapper à une rage et de trouver une lumière. Je ressens ça dans tout ce qu'il écrit. C'est presque une quête spirituelle sans religion. Il y a quelque chose, même quand il est dans la drogue, même quand il parle de sexe, quand il est dans ce truc noir, il y a pour moi quelque chose qu'il essaye de sauver, un souffle qu'il essaye de sauver, et au travers de l'amour du rock. Quoi.
Comment s'est passé le confinement pour vous ? Vous avez fait la classe ? Comment c'était ?
J'ai fait la classe. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc c'était quand même. J'étais beaucoup plus chanceuse que plein de monde, et j'ai fait l'école. Et puis j'écris mon prochain disque, donc j'ai rien interrompu en fait. Donc,
ça sera quoi le prochain disque ? C'est quoi le thème ? Vous pouvez le dire ou pas ?
Ce que je peux juste dire, c'est que c'est très empreint de ce qu'on traverse aujourd'hui et d'un regard sur le monde, ouais. Qui me trouble.
Et puis vous avez également participé à l'opération Je reste à la maison pendant le confinement avec plein d'autres artistes. Il y a eu Oxmo Puccino, San Severino, Yel Naïm, Clarica, Tété. Mm. Il va en rester quelque chose ? Vous allez faire quelque chose ensemble ou c'était juste quelque chose d'éphémère comme ça ?
C'était éphémère, c'était une manière effectivement de dire on est là, de donner quelque chose. Et puis aussi, ça fait tellement de bien de jouer. Mais c'était très bizarre d'enregistrer ça, de parler aux gens sans qu'ils soient là. C'était très déstabilisant. J'étais assez bouleversée après. Je me sentais pas bien.
Mais on dirait que vous l'êtes encore un peu. Non, pas bien, mais déstabilisée.
Ouais, c'est une sensation que je trouvais très, très, très déstabilisante, très, très bizarre, pas très agréable.
Run. Merci beaucoup, Émilie Loiseau. Nouvel album en hommage à Lou Reed. On le trouve évidemment partout et puis sur toutes les plateformes. Merci d'avoir été avec nous en direct. Demain, Culture Média à 9h, évidemment. Nous serons avec le photojournaliste Jean-François Leroy qui lance un appel pour sauver la photographie. Et puis le producteur Jean-Marc Dumontet qui viendra nous parler de la 32e nuit des Molières parce que ça existe et ça arrive. Salut Céline Dacosta.
Salut Émilie Loiseau.
À demain.
À demain. Anne Roumanoff arrive dans un instant avec toute sa bande et ses invités aujourd'hui. Le groupe parodique Les Goguettes et l'écrivain Frédéric Lenoir sur Europe 1.